RTL.
À Castelnaudary, dans le sud-ouest de la France, bienvenue à la Légion étrangère.
Sidonie Bonnec.
Vous avez choisi la difficulté.
Thomas Hugues.
Maintenant, il va falloir assumer votre choix.
La curiosité.
Vous êtes venu de vous-même ici à la Légion étrangère.
Est un vilain défaut.
À vous de montrer que vous êtes digne de devenir légionnaire.
Bonjour Victor Ferreira.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue.
Vous Merci êtes beaucoup. Un ancien légionnaire, aujourd'hui photographe. Ça vous rappelle des souvenirs quand vous entendez cette mise en onde où on entend cet entraînement à Castelnaudary? Vous êtes passé par là?
Oui, ça renvoie toujours à nos premières images à la Légion étrangère. Moi, je suis arrivé, j'avais 20 ans en 1984. Et c'est vrai que ça reste toujours imprégné.
Quel genre d'exercice vous faisiez à Castelnaudary, vous vous rappelez?
En fait, quand on est avec Castelnaudary, on est civil, et en tout cas l'instruction initiale, et vous découvrez un monde auquel vous n'imaginez même pas.
Donc, qu'est-ce qui vous a le plus étonné quand vous étiez jeune, vous étiez gamin, 20 ans?
J'avais 20 ans, et ce qui m'a le plus étonné, je pense que c'est tout, mais c'était aussi de me retrouver avec plein de gens qui, un peu comme moi, qui ne comprenaient pas grand-chose à l'environnement dans lequel ils étaient, et puis beaucoup ne comprenaient pas le français. Quoi.
Ah oui,
et donc, la première difficulté pour nous tous, c'est d'apprendre à parler le français, et quand on s'engage à la Légion étrangère, c'est notre première source de cohésion commune, parce qu'il faut quand même, pour exécuter un ordre et capable de partir en mission, il faut parler français. Quoi.
Alors, vous êtes entré, vous nous l'avez dit, à la Légion en 84, vous y avez passé 23 ans et demi.
Oui.
Je ne sais pas si on a droit de poser cette question, mais je vous la pose quand même. Pourquoi vous êtes rentré à la Légion?
Alors, c'est vrai qu'habituellement, c'est une question qu'on ne pose pas. En fait, la Légion étrangère, elle pose la question au début quand vous vous engagez, et elle vous demande de tout dire, et ce qui lui permet ensuite de vous protéger si toutefois vous en aviez besoin. Et en fait, moi, je suis venu, parce qu'il faut imaginer le Portugal, début des années 80, à peine sorti de la période post- Salazar, 20 ans, un avenir un petit peu incertain, et on était beaucoup à cette époque-là, dont Pedro Cabanas, parce qu'on a fait l'instruction ensemble, en fait on s'est retrouvés ensemble à la Légion étrangère à Castelnaudary, et en fait j'étais en quête d'une vie meilleure, on pourrait dire.
Victor Ferreira, vous l'avez dit, la Légion étrangère pose la question quand même aux jeunes qui viennent se présenter avec leur carte d'identité pour appartenir à ce corps d'élite. Est-ce que ça veut dire, c'est un cliché qu'on a un peu, ou une rumeur sur la Légion étrangère, on dit on peut trouver des criminels parce qu'en fait la Légion étrangère est efface ce passé criminel, c'est vrai ou pas?
Enfin, quand on dit qu'elle efface le passé criminel ou elle engage des criminels, aujourd'hui, je pense pas que la Légion étrangère engage des criminels en tant que tel, en ce sens du terme, et puis les gens ne le comprendraient pas. Ce que la Légion étrangère permet, c'est à quelqu'un, comme moi à certains moments, ou à d'autres personnes qui sont en rupture, en fait, ou qui sont dans une vie qu'ils n'ont pas choisie, qu'ils ont envie d'autre chose, d'aventure, et de repartir à zéro, et qu'ils aient entre 17 ans et demi et 39 ans, c'est de repartir, de reconstruire une vie et de repartir à nouveau vers des cieux qu'ils n'imaginaient même pas parfois.
Victor Ferreira, vous avez cité le nom de Pedro Cabanas, c'est le co-auteur de votre livre Légionnaire, Fragments de vie, la vie, l'amour, la Légion, c'est publié aux éditions Mareuil. On a besoin de définition un peu. C'est quoi la Légion étrangère? Il y a combien d'hommes? C'est quelle armée? Vous voyez ce que je veux dire?
En fait, la Légion étrangère fait partie intégrante de l'armée française et de l'armée de terre. Aujourd'hui, c'est à peu près 9000 hommes pour 140 nationalités. On parle toujours un petit peu en moyenne. Hein. Et c'est presque les Nations Unies. Hein. et pour amener ça à un ratio qui soit un peu plus dimensionnable, imaginez une section de combat d'infanterie à une trentaine de légionnaires. Ça peut aller jusqu'à vingtaine de nationalités différentes.
Dans une section de 30 personnes?
À peu près, oui.
Ouais.
Et à quel moment vous êtes envoyé sur les terrains d'opération, vous, les légionnaires?
En fait, en soi, dès la fin de l'instruction, un légionnaire est en capacité de partir en régiment et d'être projeté en opération. Quoi.
Est-ce que vous êtes les premiers à arriver sur un conflit, par exemple? C'est plutôt ça ma question.
Oui, en fait,
Parmi les différents corps,
on dit souvent ça, et je pense que c'est lié aussi à l'histoire militaire française, où à un certain moment, il fallait partir en colonie. Mais aujourd'hui, c'est aussi aux sorties du... Parce que la Légion étrangère fonctionne comme un tout et partout de la même façon. Et ce qui permet aux légionnaires d'être en grande capacité de comment dire ça, d'alimenter les régiments des forces. Quoi.
Ça veut dire, Victor Ferreira, que vous maîtrisez quelles armes, par exemple, ou quelles techniques de combat pour être légionnaire?
100% des légionnaires sont combattants. Donc, fantassins, parachutistes, il y a les gens du génie de combat.
Des spécialités. Donc, c'est quoi le génie de combat?
En fait, le génie, ce sont ceux qui ouvrent la voie, en fait, pour que ce soit compréhensible pour tout le monde. C'est les pionniers, ce sont les démineurs. ouais. par exemple. Ouais. Ce sont les gens du génie. Et ceux qu'on voit sur qui défilent en tête le 14 juillet avec la barbe, le tablier en cuir et l'âge, c'est un petit peu ça. C'est pour ça qu'ils défilent en tête de la Légion étrangère, parce que c'est eux qui ouvrent la voie, en fait.
Alors, vous nous l'avez dit, Victor Ferreira, 140 nationalités et une langue française pour les unir. Et puis, il n'y a pas que la langue française aussi. Le chant permet cette union entre frères d'armes, par exemple, avec ce chant.
Oula, la boussombre, pour les guépis blancs, la force de nos âmes, la force de nos cœurs.
Victor Ferreira, on voit que ça vous émeut. Vous avez quitté la Légion étrangère depuis quelques années. Déjà, qu'est-ce que ça vous fait, ce chant, quand vous l'entendez? Ça vous rappelle quoi?
Ouais, c'est toujours quelque chose de très fort en moi. Et en plus, moi, quand je me suis engagé, avant de réciter le code d'honneur, aujourd'hui on récite le code d'honneur quand la remise des képis blancs, à l'époque on chantait le chant des képis blancs.
Le chant des képis blancs.
Au symbole au combien représentatif de la Légion étrangère. Et le chant est très important à la Légion étrangère parce que c'est une source de cohésion très forte, quoi.
Et d'ailleurs, il représente quoi, ce képi blanc? C'est quoi son histoire?
Enfin, la première fois que les légionnaires ont défilé avec le képi blanc, c'est en 1939. C'est le premier REC qui a défilé à Paris pour le 14 juillet. Mmh. Et en fait, avant, les képis n'étaient pas de couleur blanc. Ils étaient recouverts, ce qu'on appelle un couvre-chef, et qui servait à se protéger aussi du soleil. Et il est devenu blanc à force de lavage, en fait. Ils l'entretenaient en blanc. Et c'est à partir de là qu'il est devenu blanc et que le képi est blanc. Et d'ailleurs, le premier REC, au jour d'aujourd'hui, continue à utiliser sur le képi blanc, un surképi, voilà.
Victor Ferreira, vous publiez avec Pedro Cabanas Légionnaire, fragment de vie, chez Mareuil Édition. C'est un très beau recueil.
Sidonie Bonnec.
Les soldats n'ont aucune idée de ce qui les attend.
Thomas Huc.
Une seule certitude, ils vont devoir obéir nuit et jour et au pas de course.
Bienvenue sur RTL, les curieux.
Peu importe le grade et le régiment, à la Légion, on est là pour en baver.
À vos ordres, mon capitaine. Je sais pas comment vous l'a vendu, mais si vous êtes au SOFE, et si au SOFE, il n'y a pas le stage vacances, ça c'est négatif.
Extrait d'un reportage, stage d'entraînement en Guyane avec la Légion étrangère.
Vous êtes inscrit, Thomas?
Et oui, bah, c'est sympa, merci beaucoup. Il va falloir que je fasse un peu d'entraînement physique d'ici là, parce que sinon, je pense que je vais un peu me casser. On est avec Victor Ferreira, qui est photographe, qui est ancien légionnaire. Il y a beaucoup de sites différents comme ça de la Légion. On a parlé de Castelnaudary tout à l'heure. Là, on était en Guyane.
Et en fait, il y a 11 unités de Légion étrangère.
Hein. Alors, ils sont où?
La plupart sont en France. Donc, vous avez Castelnaudary, vous avez Nîmes, vous avez l'Ardoise, vous avez l'Audin, vous avez Calvi. Mmh. Et ensuite, vous avez le groupement de recrutement de la Légion étrangère qui est ici à Paris. Donc, s'il y a quelques volontaires qui veulent s'engager, ils peuvent y aller au Fort de Vincennes, notamment.
Allez-y tout de suite, Fort de Vincennes. C'est dur à quel point, l'entraînement?
C'est dur à quel point, c'est une très bonne question, parce que je pense que c'est lié aux limites de chacun, mais à la Légion étrangère, tout se fait de manière progressive, en fait.
On fait quoi? On rampe, on grimpe, on saute? Enfin, moi, j'ai
une image... J'aimerais bien savoir, parce qu'elle m'a, comme je suis inscrit, là, maintenant.
Tout se fait de manière très progressive. Vous arrivez, on vous apprend à marcher, on vous apprend à utiliser votre arme, on vous apprend à courir. En fait, tout se fait de manière progressive.
Ça veut dire qu'on ne cherche pas à casser l'apprenti légionnaire, vous voyez, on teste ses limites, est-ce qu'on le met en difficulté quand même physique ou même psychologique?
En fait, quand vous arrivez à la Légion étrangère, vous arrivez, vous êtes forcément un petit peu déstabilisé. Que vous ayez 20 ans ou 25 ans ou 30 ans, vous arrivez dans un milieu que vous ne connaissez pas, même si vous avez fait l'armée, vous n'avez pas de repères, donc vous devenez complètement vulnérable. Donc, de fait,
vous ne parlez pas la langue souvent.
Bien souvent, voilà. Donc vous vous retrouvez dans un environnement qui vous est inconnu. Donc, tout peut paraître difficile. Mais l'objectif, c'est pas forcément de vous casser ou de faire de vous quelqu'un de casser. On est là pour vous accueillir. Vous avez fait, pour certains, traverser la moitié de la planète pour venir. Enfin, on reconnaît quand même ça.
Oui. 9000 hommes, cette force, ce corps d'élite, la Légion étrangère, représente 11% de la force opérationnelle terrestre. C'est pas rien. Est-ce qu'il existe des légions étrangères ailleurs qu'en France? partout dans le monde. Formidable concept.
En fait, la Légion étrangère, c'est vraiment une exception française. Ça n'existe qu'en France.
Ça n'a pas pris ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a eu des tentatives, peut-être.
En fait, les Espagnols ont essayé. Ils ont toujours la bandera, mais qui aujourd'hui ne recrutent que des Espagnols. Et je pense qu'eux, quand ils ont créé la bandera, ils recrutaient essentiellement des Hispaniques.
Ouais.
Et les Américains ont essayé à certains moments en attribuant des cartes vertes, mais ça n'a pas marché. Ça ne marche que chez nous. Je sais qu'aujourd'hui, les Allemands essayent. En tout cas, parce qu'ils ont des problèmes de recrutement, donc de recruter des étrangers, mais qui vivent déjà en Allemagne, qui parlent allemand et qui sont dans une situation régulière. Alors qu'à la Légion étrangère, non. Vous arrivez avec votre carte d'identité, enfin une pièce d'identité, votre brosse à dents et c'est parti. En fait.
Mais qui a eu cette drôle d'idée? Ça date de quand?
C'est Louis-Philippe en 1831.
Ah oui, donc ouais. C'est quand même très ancien.
Il y a une devise.
Ah oui, devise.
Légion Patria Nostra, en fait. Légion Notre Patrie, en fait.
Légion Notre
Patrie.
Et il
n'y a pas honneur et fidélité aussi?
Fidélité. Ouais, c'est honneur et fidélité, parce qu'en fait, c'est ce qui est inscrit sur tous les régiments de la Légion étrangère.
Alors, je voudrais qu'on réécoute. Tout à l'heure, on a écouté le képi blanc.
Le jour de képi blanc.
Qui était, moi, ça m'a donné des frissons d'entendre ce chant. La voix, c'est un vecteur d'émotion. On va écouter. Alors, moi, ça me fait beaucoup rire quand j'entends « Tiens, voilà du Bouddha », mais ça donne ça.
Tiens, voilà du Bouddha.
Vite, on croit qu'il n'y a plus de boudin pour les Belges, mais ça, c'est parce qu'on ne connaît pas bien l'histoire de la chanson.
C'est quoi l'histoire ?
En fait, on ne connaît pas très bien l'origine de ce chant. Oui. On pense que ce chant tire son nom des boudins qu'il y avait à l'époque sur la Légion ancienne, avec sur les sacs à dos.
Sur les sacs à dos. Ouais.
Ah, c'est quoi, le couchage ? C'est
oui,
ça, le boudin ?
En fait, c'était
roulé.
Ce qu'on roulait dessus, le boudin.
Ah, c'est pas culinaire, alors.
Non. En fait, ça l'est devenu parce qu'aujourd'hui, dans les repas de corps, on mange du boudin de fête et accompagné de piloubier, donc du vin de la Légion étrangère.
Ouais. Mais ça vient pas, a priori, ça vient...
Non, ça n'a rien de culinaire.
Qu'est-ce que ça provoque en vous d'entendre les chants de la Légion étrangère? Quel rôle ça a dans la Légion, le chant?
En fait, le chant à la Légion étrangère, c'est une source de cohésion extrêmement forte, parce qu'on considère qu'une troupe qui chante bien ensemble, c'est une troupe qui se va bien ensemble. Mmh. Parce que c'est un signe de cohésion très fort, et que quand tout le monde chante de la même façon, donc ça veut dire que vous êtes prêts à aller au combat ensemble, et éventuellement pour mourir pour votre collègue qui est à côté de vous.
Vous avez dit que vous avez un vin spécial à la Légion étrangère. Vous faites du vin?
Oui, en fait, on a...
Ah bah je vais venir alors. Bah, oui, salut, non, je suis super content d'être inscrit pour les épreuves.
À l'Institut des Invalides de la Légion étrangère, parce que la Légion étrangère... Elle accompagne toujours ses légionnaires jusqu'au bout, hein. Et on a un institut à Piloubier, hein, donc où les légionnaires vont en fin de vie, tout simplement. Mmh. On les accueille quand ils ont été légionnaires un jour, parce qu'on dit légionnaires un jour, légionnaires toujours. Donc on les recueille, et donc là ils ont tout un tas d'activités. Ils font du vin, ils font de la poterie, ils font de la reliure, et on les soigne aussi. Hein, voilà, tout à fait.
Victor Ferreira, légionnaire un jour, vous l'avez été pendant 23 ans et demi. Ça compte cette demi-année aussi.
Oui.
Quels ont été vos terrains d'opération? Vous êtes allé où dans le monde? Et puis si vous pouvez nous raconter l'opération qui vous a, je sais pas, le plus marqué, l'une de celles.
En fait, j'étais à Djibouti, après j'étais au Tchad, en Centrafrique, et j'étais aussi en Guyane. On parlait tout à l'heure de la Guyane. Mais la période qui m'aura peut-être le plus marqué, c'est la Bosnie, en fait. Donc c'était un théâtre assez particulier. La première fois où j'y suis allé, c'est en 93, j'en rentrais du Tchad.
Et vous avez vu quoi là-bas? Vous avez fait quoi?
Enfin, en gros, vous arrivez à Sarajevo, une ville qui est une capitale, qui est un ancien site olympique. Mmh. Et ça change un petit peu des terrains sur lesquels on avait l'habitude d'aller.
Parce que c'est une ville assiégée à cette époque.
C'était une ville assiégée à ce moment-là. On était sur l'aéroport, et l'une de nos missions, c'était d'aller partir de l'aide humanitaire, enfin d'assurer la protection des gens. Et c'est vrai que c'était une mission très particulière. C'était assez fort. Et après, la dernière mission que j'ai faite aussi, c'était en Côte d'Ivoire. J'étais l'aide de camp du général Le Serre, qui commandait à l'époque l'opération Licorne entre 2006 et 2007. Et donc j'avais un poste complètement différent, et ça m'a donné une autre vision aussi de ce que pouvait être l'engagement sur le terrain. Mais la Bosnie, oui, c'était quelque chose de très particulier. Ouais.
RTL.
Tragicomique et Falbala sont en route vers l'Afrique. La seule façon d'y aller, c'est de nous engager dans la Légion et de faire vite.
La curiosité est un vilain défaut.
Je suis le Décurion Brise Radius, votre grand ami. Quelle bonne idée vous avez de venir parmi nous. Nous allons vous inscrire afin que nous fassions plus amplement connaissance.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Suivant.
Astérix et Obélix, dépêche-toi, nous n'avons pas le temps.
Nous sommes dans l'armée maintenant.
Silence ! Vous êtes dans l'armée maintenant !
C'est ce que je viens de dire.
Astérix et Obélix, eh bien, s'invitent dans la rue. Oui, légionnaire, pourquoi pas. Mais
oui, Astérix, légionnaire, c'est une de mes BD préférées. Et j'adore le talent qu'avait eu Uderzo et Goscinny pour inventer des noms de personnages.
Alors, votre préféré, c'est quoi?
Non, ce qui est très drôle, c'est qu'ils ont inventé Coronavirus. Il y a l'une des BD où un personnage s'appelle Coronavirus, parce que les Romains, ils ont tous des noms en us. Et donc, ils ont été rattrapés par l'actu. Je trouve ça assez drôle.
Victor Ferreira, vous êtes photographe ancien légionnaire et vous nous racontez les secrets de ce corps d'élite, la Légion étrangère. On parlait des traditions, des chants, bien sûr. Il y a aussi le képi blanc qui est vraiment emblématique de ce corps d'élite. Et il y a le pas cadencé. Qu'est-ce que c'est que ce pas? Qu'est-ce qu'il a de particulier? Vous nous disiez, quand on entre à la Légion étrangère, l'une des premières choses qu'on apprend, c'est à marcher.
C'est à marcher au sens propre, bien figure. C'est aussi à marcher avec un sac à dos, une arme, et être capable de marcher dans la durée. D'ailleurs, la remise de képi blanc, avant de recevoir le képi blanc, vous faites une marche d'une cinquantaine ou une soixantaine de kilomètres.
Ah oui, il pèse combien le sac à dos?
Je pense que ça doit fonctionner, mais ça doit poser une bonne vingtaine ou une trentaine de kilos,
oui,
je pense.
Facile, 60 kilomètres avec 30 kilos sur le dos,
c'est
pas de problème. Ça,
mais si vous allez en Guyane, ça sera un peu plus lourd, par contre.
D'accord. Bon, et donc le pas cadencé.
Le pas cadencé, en fait, on vous apprend à marcher au pas, donc on donne le rythme 1, 2, 3, 4, et à la Légion étrangère, on marche au rythme de 88 pas minutes.
Ah, c'est précis, ça.
Mais ouais, pourquoi ça correspond à quoi?
Ça correspond au rythme de battement du cœur, en fait.
C'est voilà. Beau. Et pourquoi vous avez ce rythme du battement de cœur et les autres corps d'élite?
Les autres marchent un petit peu.
Comment ça s'explique, vous savez?
Un petit peu plus vite. Non, je ne sais pas, c'est peut-être lié aussi à la musique, parce que les légionnaires se déplacent beaucoup en chantant avec la musique lors du 14 juillet, parce qu'on est les seuls à défiler avec la musique.
Vous avez passé plus de 23 ans et demi dans la Légion, Victor Ferreira. Il y a une retraite? Il y a un âge limite à la Légion?
En fait, l'âge limite, quand vous engagez à 20 ans, vous pouvez aller plus loin. Quand vous engagez à 40 ans, vous faites un petit peu moins de temps. Et comme le légionnaire est sous contrat durant toute sa carrière, l'âge limite, en fait, est lié à la possibilité de ses capacités
physiques. Mais ça veut dire quoi en moyenne? On part à quel âge? 45, 50 ans, plus 55, je m'en rends pas compte.
En fait, on peut partir à partir de 15 ans ou 17 ans et demi de service. On peut prétendre à quitter l'armée.
Ou même dès 30 ans, 35 ans. Enfin,
D'avoir ce qu'on appelle une pension à jouissance immédiate.
On gagne combien quand on est légionnaire? Quand on débute, là, le petit gars de 20 ans qui arrive avec sa carte d'identité et sa brosse à dents?
Le petit gars de 20 ans qui a traversé la moitié de la planète, je pense que sa motivation, c'est pas le salaire. Oui. En fait, il vient pour autre chose. Hein. Mais je crois que le salaire initial est de l'ordre de 1200 euros par mois, je crois.
Et pourquoi, moi, à 20 ans, je pouvais pas me présenter avec ma carte d'identité pour devenir légionnaire?
Pas de filles, c'est ça?
Oui.
En fait, il n'y a pas de femmes légionnaires, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de femmes à la Légion étrangère. Il y a des officiers et des sous-officiers qui appartiennent au service administratif, tout ce qui est aussi gestion RH et des médecins, mais il n'y a pas de femmes, légionnaires. Non.
Et il y a d'autres corps d'armée qui se sont féminisés, même par exemple les porte-avions,
ouais.
Voilà, je disais porte-avions, ouais. Même sous-marins, ça y est, mais il y a quelques femmes dans les sous-marins.
Les quatre premières ont embarqué l'année dernière, mais pareil, ce sont des spécialités très... très, très, très particulière.
Est-ce que c'est facile de construire une vie familiale, une vie amoureuse quand on est légionnaire? Parce que, voilà,
par définition... On dort où quand on est légionnaire, d'ailleurs, toute la semaine?
Je sais pas, en mission, à l'entraînement
En fait, les premières années, quand vous êtes légionnaire militaire durant, vous vivez à la caserne. Ouais. Et ensuite, quand vous inscrivez dans le temps, vous prenez du grade, vous pouvez loger en ville et vous pouvez, bien évidemment, avoir une famille, vous marier et des enfants, comme tout à chacun, en fait.
Est-ce que vous êtes tenu par le secret? Est-ce qu'il y a des opérations que vous ne pouvez pas nous raconter aujourd'hui? Ou même pendant que vous travaillez à la Légion étrangère?
Je pense qu'en fait, en termes de secret, dans le cadre des missions que j'ai faites, il y a un droit de réserve qui est lié à la fonction de soldat. Et ensuite, de secret particulier, non, en fait, moi, j'ai jamais eu à avoir un secret particulier, mais il y a des choses que je ne raconte pas naturellement, parce que c'est...
Parce que c'est trop personnel?
Oui, peut-être, oui, tout à fait.
Parce que vous avez beaucoup de souvenirs violents, j'imagine aussi. Vous êtes un ancien combattant.
Oui,
c'est ça, légionnaire.
Oui, effectivement, on parlait tout à l'heure de la Bosnie. Oui, effectivement, oui, il y a des choses qui sont assez fortes.
Alors, on ne veut pas vous forcer à raconter des choses que vous ne voulez pas raconter, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez côtoyé la mort, forcément, de très près.
Oui, elle est parfois passée juste à côté. Si je peux vous dire qu'une fois, il y a mon chef de section, j'étais sergent chef, qui a été blessé juste à côté de moi, et la balle, elle m'est passée sous les jambes, et c'est lui qui a été touché à ma place. Voilà.
Et quand on est légionnaire, on vit dans la peur. Est-ce qu'il y a une forme de peur au quotidien quand on est sur les terrains d'opération, dans les guerres, dans les conflits?
En fait, on vit en communauté, vous n'êtes jamais tout seul. Et alors, je ne dis pas que ne pas avoir peur, parce que la peur est un sentiment particulier, mais vous n'êtes jamais tout seul. Et ça, c'est quelque chose d'important. Le légionnaire, il y a toujours un camarade qui est à côté de lui et il sait qu'il serait peut-être capable, pas peut-être, qu'il est capable de donner sa vie pour lui. Et ça, c'est quelque chose de très fort, en fait.
Et puis, la peur peut être un entre guillemets, un bon sentiment. On a reçu plusieurs fois des gendarmes ou des policiers d'élite. C'est aussi un capteur, peur permet de ne pas faire n'importe quoi. Est-ce que vous diriez ça aussi?
Oui, tout à fait. Je veux dire, parce qu'après, on est tous individuellement, même vous tous, on vous met dans une situation particulière, vous allez réagir d'une façon qui sera peut-être parfois surprenante, mais il y aura toujours un seuil qui vous dirait, c'est un peu comme le démineur, en fait, hein, qui est sur l'engin, et il y a un moment, il y a un acte qui ne fera pas parce qu'il ne le sent pas. Mais quand vous êtes dans une communauté, dans une section, et que vous êtes engagé en combat, vous avez vos camarades qui sont autour de vous, et donc il y a un collectif qui se crée et ça crée une émulsion en fait. Mais pour autant, on n'est pas simplement à va-t'en guerre en disant bon, on va mourir au combat. Non.
Et vous êtes des poètes aussi parce que votre compagnon Pedro Cabanas, Victor Ferreira, a écrit ce recueil de poèmes. Vous l'illustrez avec de très belles photos. Je voulais juste lire un extrait d'un très joli poème qui s'appelle Loin de tout, loin de toi, loin de moi, loin de la vie et des étoiles, je vis là où le néant est roi. Le soleil et la lune brillent, la brise souffle, la vie va. Et dans mon nord-est natal existe aussi un lieu où un jour je fus quelqu'un.
C'est magnifique. Ouais. Eh ben, bravo à Pedro Cabanas, bravo à vous Victor Ferreira pour vos photos et pour ce témoignage que vous avez partagé avec les éditeurs de La Curiosité. Donc votre livre, il est publié chez Mareuil Édition.
Bon vent, à bientôt.
Merci beaucoup.
Merci.
Merci Denis Bonnec, Thomas Hugues.
La Curiosité est un vilain défaut.
RTL.